Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire.
Penguin Audio presents Jim Cramer's Get Rich Carefully.
Comment devenir millionnaire ? Restez calme, la scientologie n'a pas encore pris le contrôle de France Culture, mais on peut quand même poser la question. Comment devient-on riche ? Eh bien, c'est assez compliqué. Le plus simple est de naître riche, mais ce n'est pas comme ça qu'a procédé Madame C.J. Walker, la plus fantastique self-made woman de tous les temps. Elle est devenue riche, et même millionnaire, et millionnaire. À la fin du 19e siècle, millionnaire en dollars, c'est pas Botox, Nike et Tesla, c'est robes en taffetas, calèches, escaliers en marbre et vaisselle de Saxe. Pour être tout à fait juste, Madame C.J. Walker est la première femme de l'histoire humaine à être devenue millionnaire de manière indépendante. Et d'où venait cette femme ? Que faisait-elle donc ? Cette américaine, cette afro-américaine aux yeux tristes, a commencé par s'arracher littéralement les cheveux de souffrance et de misère. Et c'est à ce geste de désespoir qu'elle a dû sa fortune. Côté pédigré, côté famille, pour être franc, le millionnariat ne s'annonçait pas comme une évidence. À la case profession des parents et même des frères et sœurs, celle qui s'appelait alors Sarah Breedlove aurait dû écrire « esclave ». Oui, on trouve encore chez Sephora aujourd'hui des produits inventés et commercialisés par la Benjamine d'une famille capturée en Afrique, emmenée dans les fers, à fond de cale et soumise en Amérique. Ne l'oublions pas, pourtant, on consomme encore sans doute tous les jours des biens produits par des esclaves dans des contrées asiatiques cachées derrière de hauts murs physiques et médiatiques, mais on y vient. À ce moment-là, la Nouvelle-Orléans est le plus grand marché aux esclaves d'Amérique. Nous sommes en pleine explosion mondiale du commerce du coton, qu'on appelle l'or blanc, l'un des négoces les plus lucratifs de tous les temps. Et dans les champs, les journées de travail durent entre 12 et 15 heures. Une plantation de coton, c'est un camp de travail, peuplé d'hommes, de femmes et d'enfants, acheté sur pied pour 600 piastres et gardé par des chiens. En 1903, le journal L'Aurore décrivait la condition des Noirs de Louisiane.
Les malheureux sont astreints à la corvée dans les champs de coton. Quand ils ne sont pas sages, on les fouette. Et quand, las d'être fouettés, ils se sauvent, on lance d'énormes molosses à leurs trousses qui les ramènent en deux morceaux. Pauvres bougres de nègres, sous quelle lamentable étoile sont-ils donc nés ? On n'arrive pas à comprendre cette haine et ce mépris. Féroces, implacables, qui les poursuivent et qui les jettent sous la botte ou sous le fouet. Il faut avoir voyagé en Louisiane et au Texas pour se rendre compte de ce qu'un peuple ayant cependant l'expérience de la liberté peut imaginer d'attentatoire à la dignité humaine.
Sarah fut de sa famille la première à naître libre sur une plantation à Delta. Libre de quoi ? D'être misérable, ostracisé, libre d'avoir faim ? Que faire de cette liberté ? Eh bien, travailler. Dans quoi ? Dans une plantation de coton, mais au Mississippi. Sarah s'y engage, mais cette fois contre ce que l'on osait appeler alors un salaire. Le maître étant devenu un patron, bien contre son gré, et l'esclave un ouvrier. Sarah a 14 ans. Quel bel âge pour se marier et avoir un enfant, une petite Hayley Lear. Son mari, Moses McWilliams, meurt 5 ans plus tard. Je résume. Fille d'esclave, mère à 14 ans, veuve à 20 ans, j'oubliais, orpheline. Sarah ayant vu lentement ses deux parents mourir de la fièvre jaune dans la case familiale. Sans éducation, habitant désormais à Saint-Louis, elle prend des cours du soir et trime dans une blanchisserie pour envoyer sa fille à l'école publique la journée. Ses frères y sont barbiers, un métier d'affranchi, de domestique qui savait s'occuper de son maître. Et comme son second mari est alcoolique, Sarah soigne sa déprime légitime par de grands rêves ambitieux. Elle est faite pour le commerce, la promotion, elle le sait. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a la fibre du marketing, du branding.
Je suis une femme originaire des champs de coton, du sud. De là, j'ai été promue dans la cuve de lavage. De là, dans la cuisine. Et de là, je me suis promue moi-même.
Sarah rêve en grand, mais l'hygiène élémentaire manque. Les produits de soins pour cheveux afro très agressifs n'améliorent pas la situation. Elle souffre de toutes sortes de tortures capillaires et esthétiques. Ses cheveux tombent. Elle demande conseil à ses frères barbiers et dans les années 90, elle essaie des remèdes de grand-mère et utilise également un onguent élaboré pour les afro-américaines par une certaine Annie Malone. En 1903, la voilà mariée à un journaliste nommé Walker. Puis l'année suivante, elle se met à vendre les produits Malone qu'elle améliore elle-même, devenant à la fois l'employée et la concurrente de son mentor. La beauté afro-américaine, la cosmétique noire est en cours d'invention. On se lisse les cheveux, certains pour faire comme les blancs et d'autres pour inventer un style. C'est une esthétique et c'est déjà une esthétique d'émancipation. Le cheveu crépu lissé deviendra bientôt le look de la Harlem Renaissance, cette effervescence artistique et intellectuelle apparue dans le quartier du même nom à New York et à laquelle la désormais Madame Walker va largement participer. En 1905, à 37 ans, Sarah crée ses propres produits avec l'appui de son mari pour la communication et de sa fille aux commandes d'un service de vente par correspondance précurseur à Denver. Les cinq années qui suivent voient Madame Walker devenir la référence en matière de pousse des cheveux, de lissage, de coiffage des cheveux noirs. Ses produits s'envolent. Dans le même temps, elle lance avec une audace folle des dizaines d'innovations commerciales et publicitaires, toutes inouïes pour l'époque. Elle invente coup sur coup le « avant-après ». Mettant en scène une chevelure dévastée avant et une coiffure éclatante après le traitement, mais aussi le personal branding avec une photo très avantageuse d'elle sur toutes les boîtes de ses produits. Elle promeut également un marketing communautaire soupçonnant les produits pour blancs d'être toxiques pour les cheveux des noirs. Fait des déclarations brillantes qui sont autant d'éléments de com ultra smart.
« Je sais faire pousser les cheveux comme je sais faire pousser le coton »,
dit-elle. Une phrase qui résonne et la rapproche d'un public à la recherche d'émancipation, mais qui n'oublie pas d'où il vient.
When a rich man doesn't want to work, he's a bon vivant, yes, he's a bon vivant. But when a poor man doesn't want to work, he's a loafer, he's a lounger, he's a lazy good for nothing.
He's a jerk.
À sa communauté, elle donne l'occasion de s'enrichir en mode Tupperware en vendant ses produits et de s'éduquer dans sa College of Beauty. C'est l'explosion. Soudainement, elle est partout. Voyage dans tout le pays et dans toutes les Caraïbes. Elle roule dans les plus belles voitures, porte les plus belles fourrures. Voyage partout où la première page des journaux locaux la précède toujours. Elle est devenue une figure afro-féministe et libérale. Une militante anti-discrimination. Elle a dénoncé les problèmes rencontrés par les soldats noirs de la guerre de 14-18. Elle tient salon avec sa fille à Harlem, dans une maison qui peut contenir 100 personnes et où dorment les grands intellectuels du moment, réveillés en douceur par un organiste privé le matin. Madame C.J. Walker devient l'idéal de la jeunesse noire, une philanthrope qui fréquente Booker T. Washington, ancien esclave et premier penseur élitiste noir, dans son ouvrage classique « Up from Slavery ». C'est l'inventeur du self-help ou la motivation personnelle, devenu le noir le plus puissant d'Amérique, dont les citations motivent une jeunesse noire qui prend son destin en main. Il dit « Aucune race ne peut prospérer si elle n'apprend qu'il y a autant de dignité à cultiver son champ qu'à composer un poème. » Ou « J'ai appris que le succès ne doit pas être mesuré par la position qu'on a atteint dans la vie, mais par les obstacles qu'on a dû surmonter tout en essayant de réussir. » La mort de Madame C.J. Walker en 1919, à l'âge de 51 ans, laisse un étonnant héritage de maisons comme son palais de Irvington à côté de New York que l'on continue à visiter, de fondations comme la Madame C.J. Walker Legacy Center qui persiste à encourager l'entrepreneuriat noir, mais aussi de produits encore vendus chez Sephora et d'autres chaînes aux États-Unis et même copiés en forme d'hommage par des marques plus luxueuses comme Camille Rose Naturals. En conclusion, Certains ont vite fait de considérer une personne comme une icône. C'est encore plus vrai pour ceux dont la réussite ne correspond pas forcément à ce que promettaient les chances de départ. On a dit de Madame Walker qu'elle avait inventé le mode de vie dit « bling bling » des stars du hip-hop, avec ses excès, sa manière de tout transformer en or et de montrer le plus possible que tout enrichissement est une revanche sur les limites imposées par une certaine élite raciste américaine. Rien, bien sûr, n'est plus faux. Le travail de Madame Walker, sa rage d'entreprendre, n'avait rien à voir avec le tapage vantard d'un P. Diddy ou le snobisme paranoïaque d'un Kanye West. Il était plus simplement le fait d'une femme, pour qui l'indépendance n'était pas négociable, et pour laquelle la dignité, la sienne, était faite pour être un exemple. Si le travail nous accorde l'urgence, les moyens de survivre, l'œuvre nous permet de laisser une trace, de pérenniser notre ancrage sur Terre. Le travail, c'est la survie biologique, mais l'œuvre nous donne les moyens de durer. Comme l'a dit Hannah Arendt, qui, soit dit en passant, ne lui arrivait pas à la cheville, une liberté qui donne l'exemple de la liberté. Vous savez quoi ? On devrait citer plus souvent Madame Walker et moins souvent Hannah Arendt, mais elle a laissé si peu de mots pour tellement d'accomplissements. Et vous, où en sont vos cheveux ? Tous les épisodes sont écoutables à vie sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr. Merci à l'indispensable Cassandre Puel, à la virtuose Minetta Diawara, attachée de production Aurélie Marsay. Bravo à Théo Wiesmann. À dimanche, que votre semaine soit aussi une histoire truculente. I want you to hold the door.